Chapitre 35. Brissenden ne donna aucune explication de sa longue absence et Martin ne lui en demanda pas. Il était content de revoir le visage cadavérique de son ami à travers la vapeur qui s'élevait de son gobelet de grog au whisky. « Je n'ai pas chômé non plus, » déclara Brissenden après avoir entendu Martin lui faire le récit de ses travaux. Il tira un manuscrit de sa poche intérieure et le passa à Martin qui, voyant le titre, haussa les sourcils. « Eh oui, c'est bien ça !» fit Brissenden en riant. « Joli titre, hein ? L'éphémère, c'est le mot juste. Et vous en êtes responsable avec votre portrait de l'homme, l'inorganique devenu être vivant, le dernier des éphémères, le premier insecte à sang chaud. Ça me trottait dans la tête et il a fallu que je l'écrive pour m'en débarrasser. Dites-moi ce que vous en pensez. » Martin rougit et pâlit tour à tour en lisant. C'était de l'art pur. La forme triomphait de la substance, si l'on pouvait encore parler de triomphe lorsque le plus infime atome de la substance trouvait à s'exprimer dans une construction si parfaite que Martin en eut le vertige, les larmes aux yeux et des frissons dans le dos. C'était un long poème de 600 ou 700 vers, une pièce fantastique, bouleversante, surnaturelle. C'était étourdissant, impossible et pourtant bien réel, là, sous ses yeux, noir sur blanc. Il montrait la déréliction de l'homme jeté dans un abîme où il perd des pieds et sondant les ténèbres en quête d'un lointain soleil, d'un ultime spectre lumineux. C'était un déploiement orgiaque d'imagination festoyant dans le crâne d'un mourant qui sanglotait en silence en s'accrochant au dernier battement de son cœur usé. Le poème balançait en un rythme majestueux entre le froid tumulte des conflits interstellaires et le choc des soleils glacés contre les nébuleuses enflammées dans les espaces infinis. Et, d'une obscurité à l'autre, incessante et fragile, telle une navette d'argent, courait la petite voix de l'homme, pépiment dérisoire parmi le hurlement des planètes et le fracas des galaxies. Il n'y a rien de semblable en littérature, dit Martin quand il retrouva enfin l'usage de la parole. C'est sublime, sublime. Ça m'a fait tourner la tête, ça m'a saoulé. Cette grande question infinitésimale m'obsède encore. Cette quête éternelle sans cesse recommencée. Cette petite voix plaintive et fluette de l'homme résonne encore à mes oreilles. On dirait la marche funèbre d'un moustique parmi le barrissement des éléphants et le rugissement des lions. Insatiable désir microscopique. Je sais que je suis ridicule, mais je vous le répète, je suis subjugué. Vous êtes, je ne sais pas ce que vous êtes, un génie, tout simplement. Mais comment faites-vous? Comment faites-vous? Martin interrompit son dithyrambe pour le reprendre aussitôt. J'arrête d'écrire, c'est décidé, je ne suis qu'un barbouilleur. Vous m'avez montré ce qu'était un écrivain. Quel génie! Non, c'est plus que du génie, ça transcende le génie. C'est la vérité devenue folle. Je me demande si vous vous en rendez compte, dogmatique comme vous l'êtes. La science ne peut pas mentir. C'est la vérité de la dérision arrachée à la masse noire du cosmos et tissée en un écheveau de splendeur et de beauté. Mais suffit. J'en ai assez dit. Je suis submergé, terrassé. Si, un mot encore. Laissez-moi le faire publier. Brissenden ricana. Il n'y a pas une seule revue dans toute la chrétienté qui osera publier ça, et vous le savez. C'est faux. Il n'y a pas une revue qui osera le refuser, vous voulez dire. Ce n'est pas tous les jours qu'ils reçoivent des textes pareils. Ce n'est pas seulement le poème de l'année, c'est le poème du siècle. J'aimerais pouvoir vous prendre au mot. Oubliez votre cynisme. Les rédacteurs ne sont pas tous des sots, je le sais. Prenons le pari. Je gage que l'éphémère sera accepté à la première ou à la seconde tentative. Il y a juste un détail qui m'empêche de relever le pari. Brissenden hésita. C'est un gros morceau. C'est ce que j'ai fait de mieux, je le sais. C'est mon chant du cygne, j'en suis fier. C'est meilleur que le whisky. J'ai toujours rêvé d'écrire quelque chose comme ça depuis mon adolescence, quand j'avais encore mes illusions et des idéaux clairs. Maintenant que j'y suis parvenu, je n'ai pas envie de laisser une bande de porcs piétiner ce que j'ai fait. Non, je ne relève pas le pari. C'est mon œuvre, elle est à moi, et je ne la partagerai qu'avec vous. Mais pensez au reste du monde. La fonction de la beauté est de procurer du bonheur. C'est ma beauté. Ne soyez pas égoïste. Je ne suis pas égoïste. Brissenden eut un petit sourire caractéristique, comme chaque fois qu'il avait un bon mot sur les lèvres. Je suis aussi partageur qu'un cochon affamé. Martin essaya en vain de le faire changer d'avis. Il lui dit que sa haine des revues était du fanatisme et que sa conduite était encore plus méprisable que celle du jeune fou qui avait brûlé le temple de Diane à Éphèse. Brissenden laissa passer la tempête en sirotant calmement son grog, puis répondit que les arguments de Martin étaient fondés, sauf en ce qui concernait les rédacteurs. Sa haine à leur égard était sans limite et il les accabla d'invectives. Si vous pouviez me le copier à la machine, ce serait magnifique. Je suis sûr que vous tapez 100 fois mieux que n'importe quel dactylographe. Et à présent, c'est à moi de vous donner un conseil. Il sortit un épais manuscrit de sa poche. Voilà votre Onde du Soleil. Je l'ai lu 3 fois et c'est le plus beau compliment que je puisse vous faire. Après ce que vous avez dit de l'éphémère, je n'ai plus qu'à me taire. Mais écoutez-moi bien. Quand la Onde du Soleil sera publiée, ça fera un tabac. Ça déclenchera une polémique qui vaudra tous les battages publicitaires. Martin se mit à rire. Vous n'allez tout de même pas me conseiller de la proposer aux revues? Certes non. Si vous voulez qu'elle paraisse, offrez-la à de vraies maisons d'édition. Il se trouvera toujours quelqu'un d'assez fou ou d'assez saoul dans leur comité de lecture pour en faire un rapport favorable. Vous savez lire et la quintessence de ce que vous avez lu a été distillée dans l'alambic cérébral de Martin Eden pour être reversée dans la Onde du Soleil. Un jour, Martin Eden sera célèbre et sa gloire reposera en grande partie sur cette œuvre. Vous devez donc trouver un éditeur et le plus tôt sera le mieux. Brissenden rentra tard chez lui ce soir-là. Au moment de monter sur le marchepied du tram, il se retourna brusquement vers Martin et posa dans sa main un bout de papier froissé. « Tenez, prenez ça, » dit-il. « J'ai été aux courses aujourd'hui et j'avais un bon tuyau. » La clochette tinta et le tram s'éloigna, laissant Martin sur le pavé, intrigué par la signification de cette boule de papier graisseux. Arrivé dans sa chambre, il la déroula et y trouva un billet de 100 $. Il n'eut aucun scrupule à le dépenser. Il savait, d'une part, que son ami avait beaucoup d'argent, et il était convaincu, d'autre part, que son succès lui permettrait prochainement de le rembourser. Le lendemain, il régla toutes ses factures, paya 3 mois de loyer d'avance à Maria et récupéra tous les biens qu'il avait gagés. Il acheta ensuite un cadeau de mariage à Marianne et de petits cadeaux de Noël à Ruth et à Gertrude. Enfin, il emmena la tribu Silva au grand complet à Auckland. Il avait un hiver de retard sur sa promesse, mais il tint parole et tous les Silva, Maria comprise, eurent droit à une paire de chaussures neuves. Il y eut aussi des trompettes, des poupées, des jouets de toutes sortes et des paquets de bonbons pour toute la troupe. Ce fut dans cet équipage, alors qu'il entrait chez un confiseur avec cet extraordinaire cortège sur ses talons, en quête de la plus grosse sucette jamais confectionnée, qu'il rencontra Ruth et sa mère. Madame Morse fut choquée. Même Ruth le fut, car elle était soucieuse des apparences, et le spectacle de son fiancé, bras dessous avec Maria, à la tête d'une armée de traîne-savates portugais, n'était guère flatteur. Mais ce ne fut pas tant cela que son naturel, son manque de fierté, de respect humain qui la vexa. Ses origines prolétaires lui collaient à la peau. Les étaler ainsi sans vergogne à la face du monde, son monde à elle, c'était passer les bornes. Bien que leurs fiançailles fussent toujours tenues secrètes, leur longue intimité n'avait pas manqué de provoquer des ragots, et plusieurs personnes de ses relations, présentes dans le magasin, les avaient épiées du coin de l'œil en les reconnaissant. N'ayant pas le souverain détachement de Martin, elle n'était jamais indifférente au qu'en dira-t-on. Blessée au vif, sa nature sensible frémissait de honte. Martin s'en rendit compte, et lorsqu'il lui rendit visite en fin de journée, il garda son cadeau dans sa poche intérieure, attendant un moment plus propice pour le lui donner. Les larmes de Ruth, de chaudes larmes de dépit, furent pour lui une révélation. Le spectacle de sa souffrance le convainquit qu'il était un mufle, mais sans qu'il en devinât le pourquoi. Avoir honte de ceux qu'il connaissait, voilà bien une pensée qu'il n'avait jamais effleurée, et il ne voyait pas en quoi le fait d'offrir un petit Noël au Silva était un manque de considération à l'égard de Ruth. Lorsqu'elle se fut expliquée, il comprit mieux son point de vue, mais l'interpréta comme un caprice féminin, tel qu'en sont affligées toutes les femmes, même les meilleures.